19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue en direct. Et oui, c'est parti, vous le savez, on va clore cette semaine avec plein de choses. Allez, on est ensemble jusqu'à 20h, les amis auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je dois le dire, vous savez quoi, même vous nous avez fait exploser le standard toute cette semaine. Mais il faut dire que l'actualité sur le conflit israélo-palestine s'y prête. C'est vrai. Vous êtes très très nombreux. Franchement, je vais vous dire une chose. Merci de votre fidélité. Alors, on va continuer à analyser, commenter et décrypter l'actualité. Au sommaire, au menu, ce que je vous propose. Tout d'abord, pendant 10 minutes d'interview avec Madame la ministre Sarah El Haïry, qui nous parlera de d'une loi et puis du plan gouvernemental concernant la biodiversité. Ensuite, chers amis auditeurs, nous recevrons celui que vous connaissez, la voix de Bruno Pomard, qui viendra, le débattant influenceur, qui viendra justement commenter l'actualité avec Abdeslamitage, qui représente Europe Écologie Les Verts, mais également une élue pour Horizon, le collectif Horizon, le mouvement Horizon. Ça existe ça encore ? Non, pardon. L'élu, Katia Burrier qui est avec nous aussi. Bref, tout ce beau monde va confronter son point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention, parce que figurez-vous qu'il y en a pas mal. On parlera de la manifestation pro-palestinienne qui a été interdite, je ne vous l'apprends pas, mais surtout, la question c'est est-ce qu'elle se tiendra demain, oui ou non, sur Paris ? On parlera aussi de ces enjeux. Nous parlerons aussi, vous savez quoi, de cette catastrophe naturelle concernant, humanitaire, concernant tout simplement Gaza. Moi, c'est vrai, je ne vais pas vous cacher, je suis un peu inquiet. Un peu inquiet quand on voit tous ces Gazaouis, aujourd'hui, et toute l'attention, mondiale est tournée et rivée vers ce qui se passe. Moi, je parle humanitaire, je ne parle pas, évidemment, politique, je parle humanitaire. On reviendra aussi sur les émeutes. Elisabeth Borne ne veut plus attribuer de logements aux personnes les plus précaires. Petite clocheuse. Oui, ça nous a manqué, la petite clochette. On en parlera. Oui, parce que la mixité sociale est en jeu. Le gouvernement ne veut plus attribuer de logements aux plus précaires dans les quartiers. Justement, nos débatteurs influenceurs vont en parler. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Madame la ministre Sarah El Haïry, qui est en direct avec nous. Bonjour, Madame la ministre.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va parfaitement.
Parfaitement bien, tout va bien.
C'est une grosse journée aujourd'hui.
Oui, je vois ça,
une grosse journée. C'est une belle journée.
Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ?
Écoutez, comme tous les jours, avec ce sentiment d'être chanceuse, parce que moi, j'ai la possibilité de faire avancer et je suis entourée de personnes au quotidien qui font, des responsables associatifs, des élus, des jeunes, et dans le fond, ceux qui bâtissent.
Vous connaissez Bruno Pomard, l'ancien du RAID, qui est le président fondateur de la fondation RAID Aventure.
Je le connais très bien, on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai même adoré travailler avec Bruno quand j'étais en charge de la jeunesse au ministère de l'Éducation nationale et au ministère des Armées.
Bravo.
Et je suis sûre qu'on continuera à travailler ensemble, puisqu'il se trouve que RAID Aventure, dans ses jours de rupture en particulier, va utiliser la nature pour permettre aux jeunes de se dépasser quand ils vont en montagne, par exemple. Parce que quand on sort de chez soi, quand on sort de son quartier, quand on sort de sa ville, ça permet de se reconnecter à soi-même, mais aussi parfois de voir qu'on peut dépasser ses limites. Et quand on se dépasse ses limites, on est fier de soi. Et quand on galvanise sa confiance, on a plus de goût à l'avenir.
J'ai une question qui me taraude, Madame la Ministre. D'où vient cet enthousiasme, cette énergie que vous portez, que vous incarnez ? Vous allez la puiser où ?
Je crois que j'ai la chance d'être fière de croire en notre pays, de croire dans les hommes et les femmes qui le font. Et quand on est entouré de gens qui font, t'as envie d'être à la hauteur de l'énergie qu'ils investissent. Et moi, je vois d'abord ça.
On va parler justement d'un certain nombre de choses. Je sais que l'actualité récente, c'est le conflit israélo-palestine. Vous avez décidé de ne pas en parler, ça c'est votre choix, parce qu'évidemment, vous êtes venu pour votre portefeuille. Je dis ça parce qu'on est en direct et parce que nos auditeurs ont besoin de savoir. Les auditeurs vont me dire, attendez, vous avez reçu un représentant du gouvernement, vous ne posez pas la question. Comme ça, je pose les choses en toute transparence. Vous avez laissé...
Le président de la République a eu l'occasion d'en parler récemment, et c'est pour aussi permettre des paroles très claires de la part du gouvernement.
Voilà, exactement. Donc vous êtes chargé de ce fameux portefeuille de la question de la biodiversité. Tout d'abord, la biodiversité, ça veut dire quoi ? C'est quoi au juste ?
La biodiversité, c'est la nature. Ce sont les animaux, c'est la forêt, c'est l'eau, c'est les arbres, c'est le vivant. C'est tout ce qui est vivant en dehors de l'être humain. C'est à peu près ça. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on a de précieux et en même temps, c'est ce qu'il y a de fragile. Mais c'est aussi ce dont on dépend, nous, pour vivre et pour vivre en bonne santé.
Il y a une question, justement, un enjeu qui a été acté il y a peu de temps, justement, que vous avez validé, c'est le loto de la biodiversité, qui fait débat, d'ailleurs, je l'ai vu. Alors, il est porté par la FDJ, d'accord ? Ça veut dire quoi, donc, le loto de la biodiversité? C'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place pour justement quoi? Soutenir, récolter, sensibiliser, c'est quoi?
Écoutez, d'abord sensibiliser. Le loto de la biodiversité, c'est une idée populaire qui ressemble au loto du patrimoine, qui a très bien marché, qui permet de partir d'une idée d'abord qui vient de la Convention citoyenne, qui était de dire comment on peut sensibiliser plus de monde. On a décidé de faire le petit frère ou la petite sœur du loto du patrimoine en disant, eh bien, il y a de la biodiversité et de la beauté partout, dans tous nos territoires. On va choisir 20 projets. Comme ça, les gens, ils pourront flasher le code sur leur jeu, sur leur ticket à gratter. Ils découvriront peut-être les associations. Ou par PMU, partout. Ou au tabac, ou au point presse, la maison de presse à côté de chez soi. On a fait le choix que ce soit vendu dans ces lieux-là, ce qui veut dire que c'est vendu qu'aux majeurs, parce qu'on a fait aussi extrêmement attention à la question du jeu et des addictions. On sait que les jeunes sont fragiles à ça, et moi j'étais même montée beaucoup au combat sur ce sujet. Et dans le fond, le loto de la biodiversité, c'est une opportunité nouvelle pour dire que la nature, eh bien, il n'y a pas d'endroit où on ne devrait pas en parler. Moi, je veux qu'on en parle partout. Il n'y a pas de raison qu'elle soit
Mais comment elle émerge cette idée du loto de la biodiversité? Pour quelle raison d'ailleurs? Parce que quand on pense au jeu, on pense à l'addiction, on pense forcément... vous le savez, c'est néfaste pour certains. Mais comment on peut penser? Certains vous diraient même c'est une idée saugrenue. Vous leur dites quoi? Parce que c'est vrai, comment elle a émergé cette idée du loto de la biodiversité?
Un
beau matin, vous avez dit pourquoi pas?
Pourquoi pas? Et d'abord, ça vient d'abord de la Convention citoyenne. C'est des citoyens entre eux qui disent comment vous voulez qu'on parle partout de la nature? Eh bien, l'idée assez simple, c'est de dire, écoutez, le jeu, pourquoi pas, ça va permettre évidemment de récolter 6 millions d'euros, mais c'est 6 millions d'euros face à 1,2 milliard d'euros du budget de l'écologie et de la biodiversité. Donc, c'est pas le loto qui finance toute la politique de l'État. 1,2 milliard d'euros, augmentation cette année, donc c'est une augmentation historique, mais d'une certaine manière, comment on rend ça accessible à tout le monde? Eh bien oui, en achetant un ticket à 3 euros, on donne 43 centimes à un projet, il y a 20 projets qui sont sélectionnés, mais au-delà des 43 centimes, moi ce que je veux, c'est que les gens ils prennent le temps de flasher le code et de regarder, découvrir la tortue d'Hermann ou de découvrir le rapace le plus grand d'Europe, c'est le chipaète barbu, parce qu'il a une petite barbichette, c'est très beau, et en même temps, il reste à peine 80 couples de ce magnifique rapace porté par la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Les 20 projets, ils étaient portés par des collectivités, des élus locaux qui connaissent leur territoire, et puis par des associations qui protègent la nature au quotidien. Et je me dis,
donc ça sert à protéger la nature.
Ça participe à la sensibilisation, bien sûr, totalement.
Oui. Le ticket, il est à combien ?
3 euros.
3 euros. C'est vous qui avez décidé ce prix ? Vous l'avez fixé vous-même ?
Non, on a travaillé avec des professionnels, puisque c'est l'Office français de la biodiversité et la Française des Jeux qui ont travaillé à ça, bien sûr.
Il n'y a pas un risque de sombrer justement dans l'addiction ? Pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous donne un cas de figure. Voilà, j'achète le ticket tous les jours, je veux aider, je veux contribuer, je veux sensibiliser. Vous l'avez dit, protéger la nature, etc. Et je tombe dans le panneau de l'addiction. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il se trouve que le jeu de grattage, c'est les jeux où il y a quand même le moins de risque d'addiction. C'est pour ça, il faut quand même le rappeler. On est très loin des addictions qui sont, par exemple, sur les jeux en ligne et qui touchent et qui ciblent les plus jeunes. Ça, faut quand même le dire. Maintenant, il faut faire attention. L'idée, c'est que, évidemment, les hommes et les femmes qui vendent des tickets, ce sont des gens qui sont formés, puisque ce sont les buralistes qui ont des droits et des autorisations pour vendre. Donc, ils ne vendent qu'aux majeurs. Et moi, j'invite tout le monde à acheter le ticket, bien sûr, une fois, de flasher le code, et puis de jouer s'ils veulent. Mais l'idée, ce n'est pas de créer un cycle. L'objectif, c'est de découvrir les 20 magnifiques projets, et puis de participer d'une certaine manière à une discussion qui peut avoir lieu près de chez soi, et d'aller visiter le site qui est pas loin de chez soi, qui permettra de découvrir aussi un petit trésor de nature.
Allez-y, évidemment, après cette découverte. Autre sujet d'actualité, votre gouvernement a décidé de dévoiler, vous savez quoi, cette stratégie pour protéger la biodiversité dans les quartiers populaires. Plusieurs mesures, justement. Quelles sont ces mesures qui étaient attendues d'ailleurs, hein? On les a, c'est un sujet de longue date, hein, qui ont été présentées. Alors, ça veut dire quoi? Ça concerne quoi ces mesures concrètes dans les quartiers populaires?
Les priorités, c'est par exemple de plus flécher de moyens financiers pour mettre de la nature en ville. Fonds vert, on veut passer de 7% des projets à 15% des projets. On veut doubler pour mettre de la biodiversité. Mais on va me dire, pourquoi vous voulez mettre de la biodiversité dans les quartiers? Parce que ça protège au quotidien. La nature, elle protège. C'est une solution face au dérèglement climatique. Quand il y a une canicule, si tu n'as pas d'arbres, si tu n'as pas de parc autour de toi, tu n'as pas d'îlot de fraîcheur. Et donc, tu n'as même pas d'endroit où venir t'abriter et profiter. On peut avoir 10 degrés d'écart entre un endroit où il n'y a que du béton.
Plus de
verdure, plus de nature au quotidien, mais aussi déminéraliser les sols et enlever l'artificialisation pour que l'eau puisse passer dans nos phréatiques. c'est aussi un projet avec les écoles.
Ils jouent les élus locaux, les maires par exemple.
Oui, franchement, ils sont plutôt sensibles.
Parce que quand on pense au quartier populaire, c'est souvent bétonné.
Oui, mais parce que jusque maintenant, c'était les traditions. Mais moi, je vois des élus qui ont envie et qui ont besoin d'ingénierie. Et c'est pour ça qu'on va porter cette ingénierie avec eux pour qu'ils aient accès à ces moyens financiers. Mais c'est aussi les enfants. Vous savez, quand vous renaturez une cour d'école, nos enfants, ils vont mieux aller à l'école, puisqu'il va avoir plus d'air, il va faire moins chaud, ils vont profiter de cette renaturation. C'est aussi des enfants qui ont vocation à avoir des aires éducatives, pour qu'ils s'attachent en réalité à cette nature. Moi, je ne veux qu'aucun de nos enfants ne soit privé de cette richesse-là. Et on sait à quel point on est plus heureux qu'on a accès à la nature. Et c'est pas Bruno Pomard qui dira le contraire, tellement il sait à quel point c'est essentiel.
Il y a un objectif en filigrane dans tout ça?
Oui.
Oui, c'est quoi?
Au moins une aire éducative par QPV. L'objectif, c'est de la mettre en œuvre extrêmement vite et parfois de créer des espaces de nature dans des endroits où il n'y a pas d'espace naturel près de chez soi.
Alors ça, c'est beaucoup d'argent, hein, vous le savez,
oui.
Évidemment. Est-ce qu'il y a un budget qui a été validé? On parle de 400 millions?
Exactement. La stratégie nationale biodiversité, c'est 400 millions d'euros supplémentaires, ce qui nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions. Mais c'est aussi changer les mobilités, parce que moi, je crois à la tarification sociale et progressive de l'eau. Je crois aussi à la question de plus de transports en commun, parce que les mobilités, c'est aussi ce qui pollue l'air autour de nous, de permettre de renforcer le savoir rouler avec l'école et de permettre plus de pistes cyclables dans nos quartiers aussi, de faire que l'entrepreneuriat qui sera financé dans le cadre de ce comité interministériel à la ville, dont les fonds vont doubler, puisse porter le génie écologique. Il n'y a pas de raison que les métiers d'avenir, que ce qui fait du bien à la planète, ce qui donne sens, mais aussi ce qui va permettre demain de créer de l'économie, de la richesse, ce soit en dehors de nos quartiers. Aujourd'hui, on sait que le génie écologique, c'est une opportunité d'emploi, de ressources, de richesses à venir énorme. Mais je veux que ce soit aussi dans nos quartiers. C'est la question qui va être portée aussi dans ce comité interministériel à la ville.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, qui sont dans les quartiers populaires, très nombreux justement? Quel est le message fort que vous voulez porter et véhiculer sur
l'écologie
aujourd'hui?
C'est pour tout le monde.
C'est pour
et en
monde.
Fait, l'écologie, elle protège d'abord. Elle a vocation à être populaire. Moi, c'est le projet que m'a donné le président de la République et la première ministre, en me disant: il faut arrêter l'effondrement du vivant, bien sûr, mais il faut surtout permettre que cette nature qui nous protège...
Vous irez jusqu'au bout ?
D'assurance vie, toujours. Et pour le
Qu'est-ce
coup,
que vous êtes donné comme délai ?
Je suis une engagée. L'objectif de la stratégie nationale biodiversité, c'est 2030. Donc c'est quand même déjà bien parti. Et c'est un cap soutenu. Mais moi, j'ai la chance d'être entourée d'hommes et de femmes passionnés et engagés. Et du coup, c'est une adrénaline et un travail d'équipe.
Bon vent ?
Merci beaucoup.
Bon courage, Madame la Ministre. Merci d'avoir été avec nous. Sarah Elaïri, chargée de la biodiversité. Merci, Madame la Ministre.
Un plaisir.
Justement, Bruno Pomard, on le garde, il est avec nous. Vous voulez dire un petit mot, la Ministre?
On se connaît très bien.
Et
je trouve qu'elle a toujours cet enthousiasme, même si elle nous annonce bientôt...
Ouais, petit bébé qui va arriver.
J'ai vu, on l'a vu, effectivement.
Je trouve de formidable dans ce qu'elle fait, parce qu'elle a porté le SNU après Gabriel Attal de façon dynamique. Elle s'est baladée dans la France entière. Elle est venue nous soutenir, nous, sur le terrain. Ça, c'était quelque chose d'important. Et je vois qu'avec son nouveau mandat, sa nouvelle mission, la biodiversité, ça touche tout le monde. Mais j'ai vu qu'elle avait quand même un créneau très fort sur la jeunesse, sur les enfants. Et ça, c'est très important. Et qu'elle continue dans ce sens. On a besoin de ministres comme ça, des jeunes dynamiques qui ont envie de faire avancer la France.
Vous savez ce qu'on fera, Madame la Ministre? La prochaine fois, on fera des questions-réponses avec les auditeurs.
Avec grand plaisir.
Parce que sur ce sujet-là, ils ont des questions à vous poser.
Ce sera avec grand plaisir. Et maintenant, je relève le challenge en direct.
En direct, une heure.
Avec
les auditeurs.
Plaisir.
De toute la France. Allez, on marque une pause. On se retrouve avec Katia Burier, Abdeslam Itach, qui a un léger retard, m'a-t-il annoncé, Bruno Pomard, pour débattre des sujets qui ont retenu notre attention. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h20, si vous venez de nous retrouver, c'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Face-à-face, c'est avec Bruno Pomard. Bruno Pomard, l'ancien membre du RAID, mais également aussi, il est le président fondateur de RAID Aventure. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très très bien, très content encore une fois d'être parmi les auditeurs de Beurre FM. Tu sais que j'adore venir rencontrer puis échanger avec tes invités.
Absolument. Une élue de Saint-Maurice, c'est Katia qui représente Horizon aussi notamment. Katia Burier, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Tout va bien?
Tout va très bien.
Abdeslam Itach, qui représente Europe Écologie Les Verts pour le département du 95. Il est en retard. Il vient de me dire qu'il est coincé dans les bouchons.
Il veut pas nous affronter.
La France, c'est pas ça. Il veut vous affronter justement. Mais la France, quand il pleut, forcément, ça crée le.
Mais il devrait être content. Les écologistes sont contents quand il pleut.
Ouais, ils sont contents quand il pleut. Ouais, c'est vrai.
Ça nourrit les nappes phréatiques.
Mais il n'est pas là pour vous répondre. Avant de parler des mesures, vous savez quoi? Il y a plein de sujets qui ont retenu notre attention. Avant de parler, vous savez quoi, de la manif demain pro-palestinienne qui a été interdite. Mais je voudrais qu'Abdeslam Itach soit là pour en parler avec vous. On parlera aussi de la décision concernant les émeutes en banlieue par Elisabeth Borne, je voudrais juste accueillir Sophia, qui nous appelle de Paris. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute, ma chère Sophia. Bien sûr, bienvenue Sophia.
Bonsoir, je voudrais déjà remercier Radio Over qui nous permet justement d'échanger sur plein de sujets différents.
C'est vrai.
Merci. Et je voudrais aussi revenir sur la ministre qui s'est présentée. Alors, je la trouve motivée et motivante, merci. L'écologie, c'est très intéressant. Alors, elle parlait justement de présenter tout ça dans les écoles avec tout ce qu'on peut apporter aux enfants, ben c'est très bien, mais il faudrait aussi leur apporter des cours de civisme et tout ça l'un dans l'autre, et ben on pourra élever nos enfants dans la clarté. Et la deuxième chose, elle disait tout à l'heure que l'écologie, elle parlait donc de l'écologie. Alors pour moi, l'écologie c'est la terre et la terre c'est la paix. Il y a de la place pour tout le monde.
Alors, vous savez ce qu'on va faire, Sophia ? Non, mais attendez, je lui ai proposé, Andiad, vous l'avez entendu, de venir justement faire questions-réponses avec vous, les auditeurs. Et le rendez-vous est pris. Donc, évidemment, vous aurez l'occasion de l'interpeller en direct. D'accord ?
D'accord, très bien.
Mais la raison.
En tout cas, merci beaucoup.
Ouais. Mais avec plaisir, Sophia. Merci.
Sophia a raison de
Bruno.
Oui, Sophia a raison de parler effectivement l'écologie, la biodiversité, tout ça, c'est important que nos enfants soient sensibilisés à tout ça pour respecter mieux notre environnement, ça c'est évident. Mais comme elle l'a dit, parler des cours de civisme, de citoyenneté, c'est quelque chose de très important effectivement. Et je crois que le gouvernement là-dessus, avec les annonces de Borne, se mobilise justement pour qu'on puisse apporter encore une fois dans les classes, dans les collèges, dans les lycées, avec l'aide d'associations. Notre association en fait partie, mais il y en a bien d'autres qui interviennent évidemment pour travailler sur ces sujets-là, parce que c'est primordial.
Que dit l'élu ? C'est vrai, sur la question, c'est crucial, c'est vrai. Elle a raison, Sophia, de dire.
Elle a raison. De toute façon, l'éducation, on voit bien que Gabriel Attal a pris ce sujet à bras-le-corps, donc on est totalement raccord avec ce que dit madame, absolument.
Sophia, merci pour votre intervention et au plaisir. Je vais accueillir, vous savez quoi, Fatima de Paris. Bonjour Fatima, beaucoup, c'est très féminin ce soir. Bonsoir, bonsoir Fatima.
Bonsoir Adil, bonsoir à vos invités. Eh bien moi aussi, manque de peau, je voulais interpeller la ministre.
Je sais, vous êtes beaucoup
alors,
là.
Si elle écoute.
Mais elle doit écouter si dans écoute. Sa voiture, oui. Dans sa voiture ministérielle, elle doit écouter.
Très bien, très bien. Renaissance, ils se font appeler Renaissance. Donc, elle veut rester jusqu'à. Ils veulent rester jusqu'à 2030, ils peuvent toujours rêver. Autre chose, Adil, écoutez-moi.
Oui.
Écoutez-moi bien.
Oui.
Ça, c'est pas de moi, mais je l'ai entendu.
Oui.
Écologie sans sociale. Ce n'est que du jardinage.
Oui. Oui.
Vous savez, pour l'année dernière, il y a eu plus de 600 SDF morts dans la rue, sur les trottoirs, moins de 50 ans.
C'est vrai.
Hein? Donc, blablabla, c'est le deuxième mandat. On n'a rien vu. Moi, j'ai voté Macron.
Elle est cachée. Hein, Katia Boria.
Mais c'est pas d'aujourd'hui, madame, la problématique
Fatima,
des SDF.
Fatima,
c'est pas d'aujourd'hui, oui. Malheureusement. Alors, je veux pas dire que le gouvernement, les gouvernements successifs ont des responsabilités, évidemment, sur ce sujet-là. Et malheureusement, on l'a jamais vraiment réglé. Mais vous avez vu les nouvelles annonces de madame Borne concernant le logement social aussi, de pas mettre.
Non, je l'écoute plus parce que que ça soit le logement social ou autre chose, c'est que des paroles, comme a dit Dalida, paroles. Je vais pour finir, Adil, voilà, j'ai perdu le fil. On les écoute plus, c'est fini. Parce que vous parlez du logement social. Qui c'est qui s'occupe du logement social ? Personne. Des commissions qui donnent à X et à Y.
Oui.
S'il y avait le logement social qui est donné à ceux qui ont besoin, eh ben, ces 600 personnes ne crèveront pas dans la rue. Hein ? Je ne peux pas dire comme des chiens parce que j'aime trop les chiens.
Non, mais ce que je voulais dire, j'entends vos revendications, oui. Madame, tout à fait, je comprends tout à fait, mais ce que je voulais dire par là, dans les annonces, alors c'est que des annonces, vous avez raison, après tout, c'est des paroles, mais ce qui est intéressant, ce qui a été dit, et j'ose espérer que ça sera mis en application, c'est de ne pas mettre tous les gens au même endroit. Et ça, c'est une erreur qu'on a commise depuis les années 70, hein, depuis la politique d'immigration de Giscard d'Estaing et autres pour venir en aide aux grandes entreprises françaises. On a mis les gens dans les mêmes endroits, dans ces fameuses villes nouvelles, ce qui a créé des ghettos.
On les a parqués, c'est ça ? C'est les commissions qui ont parqué les gens. Et jusqu'à présent, ça continue. Quand vous demandez un logement dans un tel arrondissement, eh ben, ils ne vous le donnent pas. Ils vous disent vous allez en banlieue, vous allez, il n'y en a pas. Alors que vous voyez des immeubles entiers attribués à X et à Y. Non, monsieur, c'est Giscard d'Estaing n'a rien à voir.
Mais,
c'est,
non,
maintenant,
mais
c'est la politique de maintenant qui est en cause.
Alors la politique.
Et j'espère qu'on va se débarrasser de tout ce monde.
Ouais.
Parce qu'on a cru, c'est vrai, a cru. Mais finalement, eh ben, il n'y a rien eu. Ce n'est que des paroles. C'est le deuxième mandat, il n'y a eu aucune amélioration.
Bon, visiblement, elle n'est pas pro-gouvernement.
Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Vous avez tort, Bruno Pomard. C'est pas ça. Merci Fatima pour votre intervention.
Madame.
Ce que je voudrais dire, je voudrais reconnaître quand même une chose, c'est qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ont voté Emmanuel Macron. Et beaucoup se disent déçus aujourd'hui de son premier mandat et encore plus déçus de ce deuxième mandat. Et ça peut s'entendre, hein, Bruno Pomard.
Oui,
ça peut s'entendre. Franchement.
Je suis pas pro-gouvernement dans tout.
D'ailleurs, les auditeurs l'expliquent très bien pour les raisons, évidemment, dans le cadre de la politique de la ville, de beaucoup de choses. Hein. Bon, c'est déçu, et il faut les entendre aussi.
Oui, mais le problème de l'habitat, c'est un problème qui est récurrent depuis des décennies, quoi. C'est ça le problème. Et comment le résoudre? C'est là la vaste question. Ce qu'a annoncé Borne de dire, encore une fois, qu'on n'allait pas mettre les familles les plus défavorisées dans les mêmes endroits. Elle a raison.
Alors comment le faire?
C'est comment faire pour pouvoir mettre en œuvre ce type d'annonce.
Et
c'est là où c'est assez problématique, en effet, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de villes qui jouent le jeu. Vous savez, il y a les fameux 25% de logements sociaux que les villes sont dans l'obligation de mettre en place. Et plein de villes ne jouent pas ce jeu-là, justement. Et préfère payer une amende.
Oui.
Et pour ne pas justement faire venir cette population. Et c'est même
ce
qu'on entend sur les plateaux et qui disent on veut de la mixité. Alors ça me fait un peu sourire.
Ça vous fait sourire.
Bah oui, parce que c'est les mêmes qui ne sont.
Alors, mixité sociale, le gouvernement, ça y est, il a acté, il ne veut plus attribuer de logements aux plus précaires dans les quartiers populaires. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Parce que la mesure, elle vise à favoriser la mixité sociale. C'est ça, hein, Katia Dorier et Bruno Pomard. Alors, est-ce que ces mesures-là, qu'on prenne le temps d'en parler, parce que ça concerne aussi celles et ceux qui nous écoutent. Katia Burier, Bruno Pomard. Allez-y, Katia.
Oui, parce que comme je disais, la problématique, c'est la mise en œuvre de cette.
Mais
cette
c'est quoi? C'est des consignes à qui? Auprès de qui?
Des préfets, des maires. Et des maires, parce que
d'accord.
C'est eux qui vont accorder, qui vont pousser pour accorder
quotas,
après les logements. Ils ont exactement des quotas. Donc ces fameux 25% qui aujourd'hui ne sont toujours pas
appliqués
dans les villes, parce que certains maires ne jouent pas le jeu, ne veulent pas justement de cette mixité. Et comme je vous le disais, on les entend sur les plateaux télé, on les entend partout hurler en disant on veut de la mixité, mais quand c'est dans leur ville, ils n'en veulent absolument pas. On le voit. Alors je prends des exemples. Alors on va vous dire qu'ils n'ont pas suffisamment de foncier, qu'ils n'ont pas les terrains pour construire, mais on voit que Neuilly-sur-Seine, comme par hasard, est à peu près, je crois, 6,5%. Donc 25%, ils sont à 6,5%.
Ces annonces-là émanent de quoi?
C'est des lois qui existent déjà.
Ça en découle sur les annonces sécuritaires, hein, en réponse des émeutes.
Oui, tout à fait. De
cet été.
Remélanger,
remixer.
Et ne pas laisser les gens dans un même
bloc ghetto.
Parce
qu'on a ghettoisé.
Exactement.
Je partage ce que dit Katia, effectivement, les villes riches, alors on fait le grand écart avec Neuilly-sur-Seine, ou Vincennes d'ailleurs, c'est deux grandes villes très très huppées, il faut le dire. Ben, ces villes-là préfèrent payer des millions d'euros de pénalités plutôt que de construire du logement social. Alors si vous les appelez, ils vont vous dire ils en font, oui, effectivement, 5-6% ou 10%. C'est ridicule. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se partage tout ça, sinon nos cités sont en train d'exploser. Les quartiers de reconquête républicaine, les quartiers politiques de la ville sont en train d'exploser par le nombre d'habitants concentrés dans des tours. C'est plus possible, la vie n'est plus possible, parce que encore une fois, on a créé cette forme de communautarisme quelque part. Et pour revenir en arrière, le problème, c'est que les annonces sont super. Moi, je trouve ça. Mais le problème, c'est de mettre en application.
Est-ce que ça résorbe les difficultés des quartiers populaires? La question la plus importante,
mais,
c'est ça.
Mais oui, je
pense. En partie.
Après, il y a les trafics.
Vous les connaissez, les quartiers populaires?
Oui.
Bah oui, mais est-ce que ça résorbe?
Mais ça va aider à souffler un petit peu, à éclaircir ces quartiers, en même temps, à répartir la population, mais surtout. Et ça va pas régler les problèmes de stup, etc. Attention, ça c'est un autre sujet, hein, parce qu'il y a encore d'autres sujets à régler dans ces quartiers. Mais ces quartiers, malheureusement, ont accumulé toutes les détresses de la société, tous les maux MAUX de la société. Et ça, c'est terrible, je trouve. Donc il faut trouver des solutions. Les annonces sont intéressantes, mais il faut voir en Patrick ce que ça va
c'est
donner.
La mise en œuvre.
Ouais, la mise en œuvre, justement, dans le cadre de la politique de la ville, parce que ils doivent négocier, vous l'avez dit vous-même, avec l'État, les maires, les préfets, etc. Et on a jusqu'au 31 mars prochain, c'est ça, hein, à peu près, pour que la politique de la ville, justement, sur le territoire, je crois que l'échéance est 2030. C'est ça,
oui,
2030. Donc ça veut dire on s'oriente vers la fin de l'attribution des logements aux plus précaires dans les quartiers prioritaires.
Dans les quartiers prioritaires.
C'est vous l'élu, madame l'élu.
Exactement.
Oui.
Moi, je vois, sur Saint-Maurice, par exemple. On est à 24%. Donc, on a joué le jeu, on joue le jeu, et on a vraiment une mixité sur cette ville, qui est une petite ville de 14 300 habitants. Et on a vraiment, le maire a fait le nécessaire, l'ancien sénateur qui était maire auparavant, a joué le jeu pendant toutes ces années. Donc on peut le faire même dans des villes proches, bah, par exemple Saint-Maurice, du Bois de Vincennes. Donc on arrive à faire en sorte que les gens se mélangent, et ça marche très très bien. Et il n'y a pas eu, justement, lors des émeutes, il n'y a pas eu de problème sur Saint-Maurice.
Alors justement, on va en parler, parce que si vous souhaitez donc intervenir, 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, mais on va parler aussi d'un autre sujet. On va marquer une pause et je voudrais vous entendre partout en France, chers amis auditeurs, parce que le moment est important aussi, à la fois parce qu'il y a des frappes en ce moment même, début de l'offensive d'Israël, grand point d'interrogation qui se pose, mais surtout la manifestation pro-palestinienne à Paris. Alors, comment les autorités ont justifié cette interdiction? Ça tombe bien, on a Bruno Pomar qui viendra nous apporter cet éclairage, on a Katia Burier et Abdeslam Itach, justement, le préfet de police. C'est officiel, hein, Bruno Pomar?
Oui.
C'est interdit?
Oui, ça a été. Oui,
c'est officiel?
Oui, jusqu'à maintenant, c'est...
Oui, oui.
Alors, a-t-on eu raison de l'interdire? Et pour quelle raison? Y compris, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Est-ce que vous pensez que le préfet de police a eu raison? A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et Les Informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Et en toute liberté d'expression, il est 19h37 précisément, avec Katia Burier, l'élu de Saint-Maurice, qui représente Horizon, mais également l'ancien membre du RAID, qui est le président fondateur de RAID Aventure, Bruno Pomar. On va parler de cette manifestation pro-palestinienne à Paris. Comment les autorités ont justifié l'interdiction? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, mon cher Bruno Pomar, vous, l'ancien du RAID? Parce que aujourd'hui, beaucoup sont remontés parce que la manifestation est interdite. Certains même veulent qu'elle se tienne. Alors, exactement.
Interdits.
Alors, on vous écoute, Bruno Pomar, et enfin, Katia Burier après.
Alors, moi, je crois
et les auditeurs après. 0,53, 48, 3000.
Alors, moi, mon cher Adil, tu sais, c'est clair. Alors, moi, j'ai le côté sécuritaire qui est pour moi essentiel, et surtout pour les autorités, parce qu'à la limite, si ça me concerne à titre personnel, c'est pas bien grave. Mais je pense que le préfet de police a raison d'interdire cette manifestation.
Pourquoi?
À partir du moment où il y a un risque à l'ordre public. Ça, c'est le premier des éléments qui est ressorti de l'intervention du préfet de police, pardon, Laurent Nunes.
Laurent
Donc ça,
Nunes.
C'est un élément. Deuxième élément qui est quand même très important, il faut rappeler qu'il y a quand même la finale de la Coupe du Monde de rugby. Mmh. Ça mobilise des forces de l'ordre considérables pour éviter tout ce qu'on sait, parce qu'on est dans une période où les risques d'attentats sont très importants.
C'est demain.
Alors, certains vont dire, oui, mais alors, on interdit parce que c'est une manifestation pro-palestinienne, et par contre, la dernière fois, il y avait une manifestation pro-Israël, on ne l'a pas interdite. Alors, il faut savoir quand même que la semaine avant, il y a eu une manifestation où, effectivement, il y a eu des slogans qui ont été dits par un certain nombre de manifestants. Mm-hmm. Je ne dis pas tous les manifestants, mais qu'on soit clair. Et je pense que c'est ce qui a fait peur, je dirais, au préfet, quelque part, de dire, attention, ça peut déborder à un moment
alors,
donné.
J'ai une petite information. Oui, par rapport à ça, a priori, les organisateurs de cette manifestation auraient eu des propos pour soutenir le Hamas, donc antisémites. Et à partir du moment où on a des propos qui pourraient être antisémites, on constitue un trouble à l'ordre.
L'organisateur ou l'un des organisateurs?
Les organisateurs, oui. C'est ce qui a été dit. Les organisateurs de la manifestation auraient soutenu le Hamas, donc à partir de ce moment-là, antisémitisme.
Risque de débordement?
Alors et trouble à l'ordre public, exactement, débordement.
Alors qu'un rassemblement avait réuni entre 15 et 20 000 personnes, place de la République, ça s'était plutôt bien passé.
Soit, mais là, en l'occurrence, c'est par rapport aux organisateurs, de ce que
oui.
J'ai compris.
Moi, je pense que ce qui fait tort à ces organisateurs de cette manif, c'est de ne pas avoir prévu un service d'ordre bien cadré, bien organisé, et surtout faire passer les bons messages, parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel, il faut le savoir. Donc qu'on soit palestinien, qu'on soit israélien, tout le monde a le droit de soutenir une cause, mais encore une fois, il faut que ça reste dans les règles. Quand on voit sur les charbons ardents sur lesquels on est actuellement avec cette guerre, parce que c'est réellement une guerre qui se passe entre Israël et le Hamas, effectivement, ça porte interrogation sur les décisions que doivent prendre les forces de l'ordre, et en particulier le préfet de police et le ministre de l'Intérieur, évidemment.
Les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Alors 01 53 48 3000, on va accueillir Mabrouk de Paris. Bonjour Mabrouk, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir,
bienvenue, on vous écoute.
Merci, je pense que mon intervention elle est venue un peu en retard pour les logements.
Ah oui, elle est en retard, oui, effectivement, oui. Oui, désolé
ouais,
pour vous.
En fait, je suis architecte, mais du coup, je travaille sur les logements sociaux, du coup.
Oui, effectivement. Bah, ce sera pour une. Ouais. Lorsque la ministre viendra, vous l'interpellerez.
Je suis d'accord. Je passerai sur ce sujet qui est intéressant aussi pour les manifestations de la Palestine, en fait. Oui. Je pense que, en fait, la liberté d'expression en France, elle n'est pas respectée. Et je comprends que le préfet interdise les manifestations tant qu'elles ne sont pas cadrées dans un cadre bien légal.
Oui. Tout à fait. Oui.
Et je chacun a, comment dire, a le droit de soutenir
une cause.
Une cause. Et il faudrait, en fait, je m'adresse plutôt aux gens qui sont sachants, pas que les gens, je sais pas, qui n'ont pas un certain niveau intellectuel ou autre, que ces gens-là se réfèrent à l'histoire et cherchent dans les livres et dans les bouquins. À la limite, il y a une plateforme qui s'appelle Gallica BNF. Mmh. Mais je ne parle pas que pour la Palestine, mais pour partout, en fait. C'est un grand répertoire où il faudrait chercher, il faudrait qu'on soit capable à chercher l'information pour ne pas être influencé ou autre.
Oui.
Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Quand j'entends les aiguilles et les gens à la télé chaque jour sur BFM TV, par exemple, ou ailleurs, je ne cite pas les chaînes, on voit qu'ils n'ont pas, les gens, ils n'ont pas un bagage, un background historique ou politique. Ils parlent juste pour parler, pour jeter la pierre sur les autres. On a l'impression qu'on est dans un café, en fait. On n'est pas dans... On regarde pas les politiciens, en fait. On regarde des gens de la rue, quoi.
Oui.
Et dire que les gens de la rue, parfois, ils ont plus d'intellect que ces gens-là.
Merci.
Donc, autrement dit, en fait, il y a une sorte de haine qui est en train d'être créée. Il y a parfois des gens qui sont dirigeants qui ne savent pas faire leur travail. Donc, il faudrait que... il faudrait cadrer les gens d'une manière... correct, et ne pas cadrer les gens d'une manière un peu subjective. Il faudrait être objectif, et tant qu'on part sur l'objectivité, tout se passera bien. Quand on rentre dans la subjectivité, c'est comme dans les recherches, la recherche, elle n'aboutira pas.
Merci Mabrouk pour votre intervention. Mabrouk, merci pour votre intervention. On l'aura saisi. Bruno Pomar souhaiterait réagir.
Je comprends ce qu'il dit et j'adhère à ce qu'il dit, effectivement. Avoir des propos équilibrés, surtout dans ce temps compliqué, c'est-à-dire une prise de position systématique pour l'un, pour l'autre, ou contre l'un ou contre l'autre, je pense que c'est pas la bonne réponse. Il y a un député MoDem, Bourlange, qui a très bien parlé. C'était quelque chose d'équilibré dans ses propos, et je pense que dans une période comme celle-là, effectivement, il faut avoir des propos équilibrés pour éviter, effectivement, parce que lorsqu'on passe dans les médias, ben on est entendu par beaucoup de gens qui peuvent prendre des positions après radicales, et je trouve que c'est pas la bonne chose pour notre pays aussi, d'ailleurs, pas au-delà du conflit qui se passe actuellement, mais je pense pour la paix dans notre pays, c'est important d'avoir un discours équilibré.
Alors, justement, j'accueille Abdeslam Itache, qui représente Europe Écologie Les Verts, pour le département du 80. Et les écologistes, absolument. Abdeslam Itache, quel est votre point de vue? Laurent Lunès est officiel, il a interdit la manifestation qui se déroule demain, pro-palestinienne. Vous dites quoi? Alors, on connaît le point de vue, je pense que vous l'avez
écouté. Oui, j'ai entendu.
Alors, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites?
On va dire, alors, moi, je m'inscris en faux par rapport à tout ça. J'ai participé à la dernière manifestation à Paris, et pour le coup, moi j'ai pas vu de troubles à l'ordre public, je n'ai pas vu de violence, tout s'est passé de la meilleure des manières.
J'ai pas dit de violence, attention.
Oui, de violence, mais le
propos.
En fait,
allez-y, il faut un débat,
prenez
la parole.
Le fait d'avancer le trouble à l'ordre public, mais moi je pourrais l'utiliser aussi pour des manifestations pro-Israël, où il y a aussi des mots qui sont scandés, vengeance, abat les Arabes, et ainsi de suite.
Vengeance contre Hamas, oui.
Non.
On peut l'entendre.
Bruno, la vengeance ne réglera rien.
On peut pas entendre.
La violence et la vengeance ne réglera rien.
Je suis d'accord avec toi.
Et moi, je prône un discours pacifiste, et je pense que la paix réside en l'existence de deux États voisins.
Ah, mais ça, voilà. Mais non, on est d'accord.
Et c'est la solution.
Mais bien sûr.
Donc, dès lors que l'on est pacifiste et que l'on souhaite justement que l'on arrête de raser Gaza, comme on le fait, et moi je peux te donner quelques chiffres, 6546 personnes tuées, là, à l'heure où on se parle, 2704 enfants, vous vous rendez compte? Vous savez qu'à Gaza, 40% de la population a moins de 14 ans. 2 200 000 personnes, d'accord, 2 300 000, pardon, eh ben, ça fait un million d'enfants.
Il y a 7 000 morts et quasiment la moitié d'enfants.
On est en train de lâcher des bombes sur des gamins. Donc, ce que je veux dire, c'est que si maintenant les gamins sont devenus des soldats de, enfin, des
boucliers,
enfin, c'est tes mots, t'appartiennent. Parce que boucliers, ils sont dans une prison à ciel ouvert.
C'est important.
Ils
ne peuvent aller nulle part. Oui. Alors,
ils ne peuvent aller nulle part. Et c'est bien ça le drame. Je vais te prendre.
Vous êtes partisan pour que la manifestation normalement.
Complètement. Et alors, moi, je tiens juste à dire une chose.
Qu'est-ce que vous répondez à Bruno et à Katia?
Je vais répondre à Bruno et à Katia et à tous les auditeurs.
Justement, parce qu'il faut qu'on en parle.
La dernière manifestation.
Parce que je voudrais me mettre dans la
dernière manifestation.
Ceux qui sont censés manifester et qui comprennent pas pourquoi on
avait été interdite. Le Conseil d'État s'est prononcé. Le Conseil d'État s'est prononcé à la dernière seconde pour dire qu'il acceptait justement parce que selon les textes, il n'était pas permis justement d'interdire cette manifestation. Et moi je parie une pièce avec toi, Bruno. La manifestation aura lieu parce que le Conseil d'État, de la même manière, rapportera sur les mêmes faits.
C'est la loi qui décidera. Tu as raison.
Oui, c'est la loi qui, bien sûr. On est dans un état de droit et le droit s'applique. Donc, ce que je veux juste dire, dans cette histoire, il y a deux peuples qui souffrent. On ne peut pas d'un côté avoir cette indignité à géométrie variable, s'indigner des Israéliens, et je regrette la mort des Israéliens.
Moi,
je regrette les morts israéliens. De la même manière, je regrette les morts palestiniens. Et ça, faut l'entendre. On ne peut pas justement s'indigner de la mort, parce que Emmanuel Macron l'a très bien dit. Il disait que la vie d'un Palestinien valait la vie d'un Français, et la vie d'un Français valait la vie d'un Israélien. Et il a raison. Et pourtant, vous savez, je ne suis pas de sa famille politique.
Je vais te dire quelque chose pour répondre à ce que tu dis. On a tous envie de quelque chose de meilleur. Mais ça fait juste 70 ans qu'on dit ça.
75.
Depuis la création de l'OLP et avant même. Et à un moment donné, la guerre du Kippour, enfin, si on fait le, il y a aucun gouvernement, même israélien, parce que Netanyahou a des comptes évidemment sur ce qui se passe.
Bien, on y vient.
C'est un scandale de tous les États du monde, de l'ONU avec.
Je préférais des ministres comme Yitzhak Rabin qui était pour la paix et qui a été assassiné par un extrémiste israélien.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Et que on n'a pas repris derrière ces accords de paix. Les accords d'Oslo,
parce qu'on
les a oubliés. Quand David, on l'a oublié. Et petit à petit, la Cisjordanie a été rongée. Et quand on regarde la carte aujourd'hui, eh ben la Cisjordanie n'existe plus. On demande, pour revenir juste à ce qu'on disait tout à l'heure.
Pour expliquer à nos auditeurs, c'est la Palestine,
ça représentait
la Cisjordanie et Gaza.
Oui,
la Palestine, c'est ça.
Enfin, la cartographie de 1948 était beaucoup plus longue.
Restons sur la manif de demain.
La manif de demain, je parie une pièce à toi, Bruno. Demain, elle aura lieu.
Bah écoute, si
demain,
le Conseil d'État.
On se reverra ici, on en reparlera.
Avec grand plaisir, mais si le Conseil d'État donne le OK, je ne vois pas d'inconvénient.
Le préfet Nunes.
Le préfet, avec les arguments qu'il amène.
Oui, bien sûr.
Le préfet a le droit.
Il a été retoqué, rappelons-le.
Oui, exactement. Il avance comme argument que cette organisation a eu des propos. Soutenant le Hamas, pas les Palestiniens,
c'est ce qui ressort.
C'est pour ça en fait qu'il interdit cette manifestation.
Je ne dis pas que la moitié des manifestations pro-Israël sont des va-t'en-guerre. Et qui appelle à la vengeance.
Il y a la finale. Attention, il y a la finale de rugby.
Peut-être aussi qui joue.
Qui pose des problèmes. Oui, non, mais tu
vois. Bien sûr.
Et le préfet de police a juste la responsabilité que nous n'avons pas nous tout autour de ce plateau de radio. Le préfet de police a la responsabilité de la sécurité.
Bruno, moi, j'ai toujours été respectueux de la loi. Dès lors que la loi se prononce, j'ai plus un mot à dire. Je me tais.
Donc, tout à fait.
Laissons faire le Conseil d'État et il décidera. Et ne préemptons pas de la décision du Conseil d'État qui déjà a cassé cette décision d'annuler une manifestation. Donc je peux te dire que ça se fera et la manifestation se passera à l'identique, je l'espère, de la semaine dernière qui était totalement pacifique. Je m'y suis rendu, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu peux me croire, Bruno.
Ouais, mais bien sûr, non,
il n'y a eu aucune violence. Aucune violence. Donc voilà. Mais
vous y serez demain ?
Oui, j'y serai demain, oui.
Vous y serez demain ?
Oui.
Qu'elles se tiennent ou pas, vous y serez ?
Non.
Qu'elles soient autorisées, vous y serez ?
Moi, j'ai confiance en la justice. On est dans un état de droit, je l'ai dit, et le droit s'applique. Je crois en l'intelligence des hommes et des femmes qui sont pleins de bon sens. Et je rappellerai que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution.
Et alors, si c'était interdit, cher ami, tu irais quand même ?
Je ne sais pas. Je ne crois pas.
Non, question piège. Je ne veux pas le coincer.
J'ai pas réfléchi à cette question. Très honnêtement, Bruno, je ne sais pas. Mais J'ai confiance en, aux hommes et aux femmes qui composent ce pays pour justement avoir du sens et avoir un certain sens de la répartie et se rendre compte que bah, dans cette histoire, d'abord dans cette histoire, il y a deux perdants.
Ah ben, c'est,
d'accord
bien sûr.
Ce sont les civils.
Oui, ah ben, oui,
voilà,
totalement.
C'est tout.
Totalement, je suis d'accord avec toi.
Voilà, et moi je suis juste pour une chose, que tout ceci s'arrête et que les gens arrêtent de manifester. Voilà, je suis pour la paix. Je peux pas en dire plus.
Ouais.
Alors,
comme dirait l'autre.
Alors, je voudrais vous entendre juste un peu sur la question là du conflit. Petite catastrophe humanitaire à Gaza. Je veux qu'on dise un mot avant de rendre l'antenne. Abdeslam Itache.
Alors,
inquiétude, pas inquiétude. Alors que les opérations terrestres sont élargies à Gaza en ce moment même.
Moi, je vais vous en parler. D'abord, j'ai annoncé ce triste chiffre de 6546 personnes décédées, en majorité des civils, dont 2704 enfants. Tués par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, l'accès à l'eau potable. Selon l'UNICEF, environ 97% de l'eau dans la bande de Gaza est impropre à la consommation.
Faut aller vite, hein.
En raison de la pollution. Ce qui a un impact grave sur la santé. Bruno, moi ou Katia, oui. Je m'adresse à nos deux co-débatteurs. Essayez de tenir 2 semaines sans une goutte d'eau.
Ah non, mais on est tout
possible.
À fait d'accord.
On est d'accord.
Je te rejoins complètement.
Voilà. Katia, vous dites quoi?
Ah non, mais que c'est une catastrophe humanitaire, en effet. On ne peut pas dire le contraire. En plus, a priori, l'approvisionnement en essence et autres ne peut plus se faire, a été bloqué. Tout a été bloqué. Donc, en effet, l'eau ne peut pas être purifiée. Oui. Les hôpitaux ne peuvent pas être.
Les usines de dessalement. Les usines de dessalement fonctionnent à l'électricité.
Vous avez 10 secondes. Je suis désolé. 10 secondes. Bruno Pomard.
Je ramène la faute initiale au Hamas, quand même, qui fait du tort à nos compatriotes musulmans, aux Gazaouis,
alors, qui souffrent actuellement. C'est dommage parce que ta mémoire s'arrête au 7 octobre, oui, mais, Bruno. Parce que tu vois, je suis venu avec un rapport. Le rapport de la Commission internationale indépendante chargée d'enquêter dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est et en Israël. Et celui-ci date du 5 septembre 2023.
J'arrête. Oui, mais je rends l'antenne. Bruno Pomard, merci.
Le départ, c'est le Hamas. Hein.
Bruno Pomard, merci. Merci à Katia Bourrier.
Qui a fait beaucoup de mal à tout le monde.
Merci à Abdeslam Itache, merci à Solal.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de...
Bilal Lehmann, TimeSport, 20h-21h, Vanessa, 21h-23h. Je vous souhaite un excellent week-end. Les programmes continuent sur BFM tout le week-end. Quant à moi, lundi, avec autant de plaisir.
Bon, c'était content.
Mais surtout, on n'en lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.